faire.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 10 juillet 2023. En direct de Washington, Idrissa Sebulia pour commencer les titres. Au Gabon, le président Ali Bongo briguera un troisième mandat fin août. Le Soudan au bord d'une guerre civile totale potentiellement déstabilisatrice pour toute la région, avertit l'ONU. L'Afrique du Sud organisera bien le sommet des BRIC, malgré le mandat d'arrêt de la CPI contre le président russe Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden au Royaume-Uni ce lundi pour des rencontres avec le roi Charles III et le premier ministre Rishi Sunak avant un important sommet de l'OTAN en Lituanie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, annonce qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août, pour laquelle il est pour l'heure favori face à une opposition très désunie. Jacques Aristide.
Le chef de l'État gabonais, 64 ans, a confirmé la nouvelle hier lors d'une intervention près de la capitale Libreville devant des partisans qui scandaient « Ali président ». Il a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo qui avait lui dirigé le pays pendant plus de 41 ans. L'investiture formelle d'Ali Bongo aujourd'hui par son tout-puissant parti démocratique gabonais est vue comme une formalité, le PDG le suppliant depuis plus d'un an de briguer un troisième mandat. Le parti qui domine très largement le Parlement par lui aussi grand favori des élections législatives et municipales qui auront lieu le même jour que la présidentielle. L'opposition s'avance pour l'heure en ordre dispersé avec une vingtaine de personnalités projetant de rivaliser avec le président sortant qui a été victime en octobre 2018 d'un accident vasculaire cérébral. La clôture des candidatures officielles se fera mardi. La campagne électorale, elle, s'étalera du 11 au 25 août à minuit, mais la plupart des candidats la mènent depuis un an dans tout le Gabon.
Le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, a été choisi hier par ses pairs pour diriger l'an prochain la CDAO en remplacement du Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, s'exprimant après sa sélection lors d'un sommet de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. M. Tinubu a déclaré que la démocratie était la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. Nous en avons besoin pour être un exemple pour le reste de l'Afrique et du monde, a-t-il déclaré. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest, a-t-il ajouté. Trois pays membres, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Oumar Aliou Touré, président de la commission de la CDAO, a exhorté les juntes de ces pays à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Dans le cas où le temps imparti pour la transition échoue, des sanctions majeures pourront tomber, a-t-il déclaré. L'ONU a prévenu hier que le Soudan était au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région, au lendemain de la mort d'au moins 22 civils, dont plusieurs femmes, dans un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de la capitale Khartoum-Bagassi-Koura.
Le bombardement survenu sur le quartier du Dar al-Salam à Omdurman, la banlieue nord-ouest de la capitale, a également fait un grand nombre de blessés. L'armée assure dans un communiqué que ses forces aériennes n'avaient visé aucun objectif samedi à Omdurman. De leur côté, les forces de soutien rapide, les paramilitaires en guerre contre l'armée depuis le 15 avril, ont dénoncé la perte tragique de plus de 31 vies et de nombreux blessés. Selon des habitants, l'armée de l'air a de nouveau frappé hier le centre de Khartoum aux abords du palais présidentiel. Des combats à l'arme lourde opposait aussi les deux camps dans plusieurs quartiers du sud de la capitale, selon des témoins sur place. Farhan Khan, un porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce une absence totale de respect du droit humanitaire et des droits humains. En près de 3 mois de guerre, environ 3 000 morts ont été recensés, un bilan très sous-estimé alors que près de 3 millions de Soudanais ont été forcés de quitter leur maison.
L'Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des BRICS où Vladimir Poutine est invité, et ce malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, contre le président russe Mohamedou Houmfa.
Nous avançons dans l'organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format, a déclaré hier le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il ne s'est pas prononcé sur la présence ou non au sommet de son homologue russe Vladimir Poutine, visé depuis mars par un mandat international pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine, des accusations que Moscou a rejetées en bloc. Nous allons organiser ce sommet des BRICS physiquement. Nous nous sommes tous engagés à avoir un sommet où nous pourrons nous regarder dans les yeux, a déclaré le chef de l'État sud-africain, interrogé sur le sujet en marge d'une conférence de son parti, l'ANC. Nous n'avons pas tenu un sommet physiquement depuis près de 3 ans. Il ne sera pas virtuel, a ajouté Cyril Ramaphosa. La rencontre devra en principe rassembler l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. En tant que membre permanent de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. Un sérieux dilemme diplomatique pour Pretoria, qui refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.
Au Zimbabwe, un juge a confirmé hier l'interdiction d'un meeting où la plus grande formation de l'opposition devait donner le coup d'envoi dans la journée à sa campagne pour les élections générales d'août prochain. Le rassemblement tenu par la Coalition des citoyens pour le changement pour présenter son programme était le 6e à être interdit ou illégalement perturbé en une semaine. Selon le juge, le parti n'a pas notifié la police dans les temps à propos de ce meeting prévu à Bindoura.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden effectue une visite au Royaume-Uni aujourd'hui avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, Gabi Dorsil.
Le chef de l'exécutif américain rencontre ce lundi le roi Charles III au château de Windsor pour la première fois depuis son couronnement, lors duquel Joe Biden avait été représenté par son épouse Jill Biden. Les deux hommes doivent surtout aborder des questions environnementales selon la Maison-Blanche. Joe Biden doit ensuite s'entretenir avec le premier ministre Rishi Sunak au 10 Downing Street. Mais le cœur de la tournée du président américain sera le sommet de l'OTAN mardi et mercredi dans la capitale lituanienne où les alliés occidentaux évoqueront leur soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe. Joe Biden espère en profiter pour convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Selon Ankara, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan, qui bloque l'adhésion de Stockholm, s'entretiendra avec son homologue américain lors de ce sommet de l'Alliance Atlantique. Biden terminera son voyage par un passage à Helsinki, la capitale de la Finlande, qui a intégré l'OTAN après l'invasion russe de l'Ukraine. Cette tournée diplomatique intervient peu après la très controversée décision américaine de fournir à Kiev des armes à sous munitions, bannies par la plupart des membres de l'OTAN, mais que les États-Unis continuent d'utiliser.
Oussama Al-Mouajer, un chef du groupe djihadiste État islamique, a été tué en Syrie dans une frappe américaine menée à l'aide d'un drone samedi. Nous avons clairement fait savoir que nous restons engagés à défaire le groupe à travers la région, a annoncé hier dans un communiqué le général Michael Curia, le patron du CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Le groupe État islamique demeure une menace, pas seulement pour la région, mais aussi au-delà, a ajouté le général Kouria. Selon le CENTCOM, aucun civil n'a été tué dans cette opération, mais les forces de la coalition internationale menée par les États-Unis font état d'un civil blessé. Les relations entre les États-Unis et la Chine ont désormais des bases plus solides, a déclaré hier Janet Yellen, la secrétaire d'État américaine au Trésor, au terme d'un voyage de 4 jours à Pékin visant à apaiser les tensions entre les deux premières puissances mondiales. Arrivée jeudi dans la capitale chinoise, Madame Yellen a été reçue par de hauts responsables du gouvernement, dont le premier ministre Li Qiang. La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
L'Angola et la RDC ont décidé de rénover une ligne de chemin de fer reliant les régions minières congolaises à l'océan Atlantique dans l'espoir de relancer les exportations de minerais et leurs économies. Luanda et Kinshasa ont accordé à un groupe d'investisseurs une concession de 30 ans pour exploiter la ligne reliant le port angolais de Lobito à Kolwezi au cœur de la région productrice de minerais et notamment de cuivre en RDC. En partie financé par les États-Unis, ce projet d'un coût de 555 millions de dollars devrait permettre de resserrer les liens de l'Angola avec les pays occidentaux. L'Afrique du Sud, qui a connu des coupures de courant record ces derniers mois, survivra à la saison hivernale grâce à une amélioration considérable de la production, a déclaré samedi le ministre de l'Électricité. Il avait prévenu le mois dernier que l'hiver serait incroyablement difficile, mais s'est montré plus optimiste samedi, annonçant une hausse de la production d'électricité moyenne atteignant désormais 60% contre 48% il y a quelques semaines. Des véhicules robotisés pilotés par l'intelligence artificielle pourraient servir à acheminer l'aide humanitaire dans les zones de conflit et sinistrées dès l'année prochaine, dans le but de réduire les risques pour les travailleurs humanitaires. Les camions sont amphibies et peuvent transporter environ 1 à 2 tonnes de nourriture chacun. Le Programme alimentaire mondial utilise déjà une cinquantaine de ces véhicules au Soudan du Sud, mais ils ont besoin de chauffeurs. L'agence onusienne a indiqué qu'elle va tester ses véhicules sans chauffeur au début de l'année prochaine.
Merci Jean-Roger. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une et le Maroc remporte la CAN des moins de 23 ans, qualificative pour les Jeux Olympiques.
Oui, au bout d'une finale intense, les Lions de l'Atlas Espoir, vainqueurs 2-1 après prolongation des jeunes pharaons d'Égypte, sont allés chercher le premier titre de leur histoire dans cette compétition. Comme l'Égypte, il y a 4 ans, le Maroc est donc sacré devant son public. Les deux pays et le Mali, qui a remporté la petite finale, représenteront le continent au prochain Jeux d'été à Paris en 2024. La Guinée-Catherine peut toujours espérer se qualifier à condition de battre en barrage une équipe asiatique.
Un tournoi s'achève en foot et un autre débute en basketball.
Il s'agit de l'AfroCAN, la Coupe d'Afrique des Nations de basket, mais réservée pour les joueurs évoluant sur le continent. Et 12 sélections réparties en 4 groupes de 3 s'affrontent depuis samedi à Luanda en Angola. Battue d'entrée, la Côte d'Ivoire s'est reprise en dominant le Gabon 66-52 et se rapproche des quarts de finale. Un second tour que ne verra pas le Rwanda qui concède sa deuxième défaite, battu in extremis cette fois par le Maroc 59-58. Tout comme le Mali et le Cameroun défaits respectivement par le Nigeria 62-56 et le Mozambique 65-71.
Il reste donc un ticket à prendre aujourd'hui pour ces quarts de finale.
Et ça va se jouer dans le groupe A entre le Kenya et le Gabon. Sinon, les autres oppositions de cette journée vont se dérouler entre des équipes déjà qualifiées. Nigeria-Angola dans la poule B, Tunisie-Maroc groupe C et RDC-Mozambique dans la poule D. Les Congolais, tenants du titre, ont d'ailleurs bien entamé la défense de leur titre par une victoire contre le Cameroun. Piero Ilunga, le coach des Léopards basketteurs, montre déjà ses ambitions.
Dans une compétition, c'est toujours important de commencer par une victoire pour une forte motivation. On s'est battu avec un manque de rythme par rapport au manque de matchs d'entraînement. Et on a pu rattraper le match et passer à l'avant pour chercher cette victoire. Déjà, la RDC, tenante du titre, ne peut rien faire si ce n'est de reconquérir le titre. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux que reconquérir le titre. Donc on est là pour ça.
Volleyball pour terminer, la Confédération africaine a annoncé le lancement d'un projet dénommé Colombe.
Exactement Idrissa, et cela vise à promouvoir la pratique du volleyball de plage. Ce projet, réservé uniquement pour les jeunes, sera exécuté en collaboration avec toutes les fédérations nationales, a indiqué la présidente de l'instant, Bouchra Ajij, dans une correspondance. A noter que les fédérations nationales sont encouragées à inclure ces activités dans leur programme pour la saison 2020. 2023-2024 et à planifier leur participation aux compétitions zonales et continentales de ces catégories.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la tension reste vive entre le pouvoir et le parti PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko, malgré la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. M. Sall promet de faire régner l'ordre, tandis que M. Sonko soutient que le chaos sera indescriptible s'il est écarté de la présidentielle. Les Sénégalais sont inquiets, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagay.
Alors que les événements de mars 2021 et ceux récents de juin 2023 ne sont pas encore digérés, les protagonistes se lancent de nouveau des piques par presse interposée. Une situation qui inquiète Fadiga John, comptable de profession.
Bon, je pense que la situation politique au Sénégal va être décisive pour ces derniers mois. Quand on compare les deux sorties des deux leaders, à savoir le président de la République, Macky Sall, qui dit que bon, il va préserver la République quoi qu'il advienne. Et de l'autre côté, Ousmane Sonko qui dit que sans lui, qu'il sera impossible qu'il y ait une élection présidentielle. Là, si les deux hommes ne s'assoient pas autour d'une table et qu'il y ait des négociations, bon, je pense que il y aura un chaos dans le pays.
Un avis que ne partage pas Sidi Andaou. Pour ce jeune topographe, il faut certes préserver la paix sociale, mais il ne faut pas transiger sur le respect des symboles de la République.
M. Le Diop a tenu des propos irrévérencieux contre la personne de son Excellence, M. Macky Sall. Des injures, des propos indécents qu'un parlementaire ne doit pas sortir de sa bouche. Une personne qui aspire à être le leader de ce pays, une personne qui veut diriger 17 millions d'habitants ne doit pas tenir ce genre de propos. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la Constitution. Le président de la République, c'est notre chef de l'État. On ne doit pas tenir des paroles irrévérencieuses contre sa personne. On doit le respecter parce que c'est une institution.
Fabien Toussaint, caissière, estime pour sa part que même si le chef de l'État est dans son droit, il doit faire preuve de clémence pour préserver la cohésion sociale.
Le président Macky Sall, il a raison, les institutions doivent rester fortes et on doit respecter aussi les biens d'autrui. Et pour Biram Souley, il s'est trompé. Il s'est excusé, l'erreur est humaine. Voilà, ça arrive à tout le monde. On doit juste avancer et être prêts, nous tous, main dans la main, pour bâtir le Sénégal.
Les récentes déclarations par presse interposée du président Macky Sall et de l'opposant Ousmane Sonko entretiennent toujours une certaine tension dans l'espace public. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est une situation qu'il va falloir dépasser pour le bien du pays. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La réouverture annoncée des frontières nigérianes aux voitures d'occasion venues du Bénin est très attendue par les différents acteurs. Il y a quelques années encore, le Bénin était la plaque tournante de la filière. Mais les fluctuations économiques et les désaccords entre le Bénin et le Nigeria ont mis en difficulté le secteur qui reste l'un des plus gros pourvoyeurs de l'économie béninoise. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La filière des véhicules d'occasion au Bénin a connu plusieurs crises, mais aucune n'a été aussi difficile que celle qui dure depuis plus de 4 ans. Le Nigeria a fermé ses portes à ce type de voiture. Hassan est un importateur libano-béninois. Il déplore la situation et espère que le président nigérien tiendra parole.
Actuellement, nous sommes en crise. On vend très difficilement parce que le naira, qui est la monnaie du Nigeria, a vraiment chuté, compte tenu du coût du dollar aussi qui a un peu monté. Ça reflète de façon indirecte sur le naira. Donc les clients ne viennent plus,
acheter ici. Mais les voitures que nous amenons, à plus de 90% sont consommées par le marché nigérien. Donc il y a de la mévente totale sur le marché. Ça agit directement sur l'économie béninoise parce que notre économie est une économie purement fiscale. Et la vente des véhicules fait partie du budget national. Le fait que nous ne vendons pas, l'État aussi le ressent.
De nombreux opérateurs économiques béninois, nigérians, libanais et autres ont fait leur fortune dans cette filière qui se trouve à l'agonie. Pour Augustin Tonksi, qui est un revendeur, avec la crise, ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent au chômage.
Ces voitures, quand elles arrivent, rapportent au marché béninois déjà le prix du transit pour chaque voiture qui sort. Ça fait pratiquement 1000 euros pour chaque voiture qui doit transiter dans un de ces pays. Donc pour chaque importateur, il y a 10 personnes qui travaillent pour lui et on a des milliers d'importateurs ici. Vous imaginez le nombre de personnes qui travaillent. À côté, il y a les mécaniciens, il y a des tauliers, à côté, il y a des vendeurs de nourriture et tout ça. Donc ça représente vraiment quelque chose qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi social pour le Bénin.
La filière contribue au PIB du Bénin à hauteur de 9%. En 2015, la douane béninoise a chiffré le nombre de véhicules qui passent par le port de Cotonou à 400 000 par an. Le marché de véhicules d'occasion a généré 15 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects, selon une enquête de la Banque mondiale. Aujourd'hui, la mévente dicte sa loi avec des milliers de voitures laissées à la portée des intempéries. Amidou est transitaire.
Un véhicule Hammer qui, en temps normal, lorsque l'État va récupérer, minimum au moins c'est 10 millions. Aujourd'hui, abandonné, dépouillé par les petits voleurs. Pourquoi ? Parce que le propriétaire, se retrouvant désespéré, a dû fuir le Bénin.
C'est pas 700 véhicules, c'est 600 véhicules, 800 véhicules. Or, avant, quand le navire vient, 10 000 véhicules, on a 10 000 chauffeurs cette nuit-là qui fait le transport. C'est 10 000 chauffeurs, c'est des Béninois.
Pour accompagner ceux qui résistent encore et animent le secteur, le gouvernement, en réponse aux doléances du groupement des opérateurs de véhicules d'occasion au Bénin, a pris plusieurs mesures. Il s'agit de la réduction des tarifs fixés et la création d'un comité de suivi de la filière. Pour Souleymane Maïga, président de la plateforme et ses collègues, c'est un soulagement.
Nous avons vraiment souhaité depuis fort longtemps que le gouvernement puisse retoucher l'arrêté 044 qui est des affaires. Il l'a retouché et que vraiment il y a une baisse énorme. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents. Je pense que tous les gestionnaires de parcs sont très contents et qu'ils vont mettre la main dans la pâte pour aider l'autorité à ramener tous ces importateurs qui sont partis.
Le gouvernement a posé des actes, ce qui était peut-être très rare par le passé. C'est vrai, on promet, mais l'acte ne suivait pas. Donc là, nous allons remercier ce gouvernement.
En plus des actions posées par le gouvernement, la fin du protectionnisme nigérien va peut-être sortir le secteur de sa grande déprime. Surtout que le Nigeria reste un gros marché. Si le président Tinubu tient parole, ce sont des milliers de familles béninoises qui sortiront de la précarité. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Merci Ginette. Maintenant le Tchad, où les travaux du 4e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad se sont achevés ce week-end à N'Djamena, forum initié par la CBLT, donc la commission du bassin du lac Tchad, et ses partenaires au développement et qui a permis aux 8 gouverneurs des régions affectées par le phénomène Boko Haram de réfléchir sur les opportunités de consolidation et de progrès dans un contexte sécuritaire difficile. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Pendant 3 jours, les 8 gouverneurs des 4 pays riverains du lac Tchad, notamment le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, ainsi que les autres participants, ont réfléchi sur des stratégies pour faire face aux défis complexes et urgents en matière de sécurité, d'aide humanitaire et de développement.
J'ai le regret d'avouer que la 4e édition des gouverneurs de la commission du bassin du lac Tchad n'apporte rien. C'est une rencontre médiatique de plus, où on dépense des millions alors que le vrai défi est la stabilisation et la résilience des populations de cette région. Ces populations qui sont victimes des atrocités de Boko Haram, de l'insécurité, des violations des droits de l'homme, de la pauvreté, de la malnutrition, du sous-développement, de l'ignorance.
Dr Ahmad Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.
J'ai assisté aux 2 jours des pré-forums et j'ai été même un des panélistes. J'ai constaté qu'on évite où on minimise la question liée à la stabilisation de la région à travers une réelle politique de développement. Et puis, nos États doivent prendre les responsabilités, avoir un œil sur ce que font les partenaires, dont certains ont le souci de convaincre des bailleurs de fonds à financer des projets qui, quelquefois, ne sont pas des projets fiables, à l'instar de l'étude d'un CTO dans la province du Lac, défendue par le PNUD Tchad et dont le coût avoisine 1 million de dollars. Les habitants de cette région n'ont même pas de pièces d'identité. Les budgets qui sont dilapidés dans la multiplication des rencontres pourraient bien être orienté vers le développement de ces régions.
Le ministre tchadien de l'administration du territoire, Liman Mahamat, insiste sur l'importance de forger de nouveaux partenariats afin de faire face aux souffrances endurées par les personnes déplacées internes et les réfugiés.
Tous ces points ont été traités avec la rigueur intellectuelle et le professionnalisme requis, proposant des pistes de solutions visant à renforcer l'inclusivité, promouvoir le partage de connaissances sur les partenariats, les pratiques innovantes et les outils qui contribuent à l'efficacité des interventions dans la région.
Toutefois, ces gouverneurs reconnaissent dans leur communiqué final que malgré les efforts consentis par les pays membres du bassin du lac Tchad, Boko Haram et d'autres groupes terroristes armés continuent d'opérer dans les pays de la région et demeurent une menace. Noël Succès Satadjim, gouverneur de la province de Hadjerlamis, par ailleurs président entrant du forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad.
Il y a donc nécessité d'intensifier les efforts visant à affaiblir davantage ces groupes terroristes et à les éliminer complètement. Il est urgent que ceux qui quittent Boko Haram et l'État islamique soient réhabilités et appellent les États, les institutions et les partenaires du BLT à prendre les mesures pour relever ces défis, notamment en fournissant les ressources humaines et matérielles nécessaires.
Le Nigeria et le Cameroun sont les deux pays membres de la CBLT les plus touchés par cette crise sécuritaire imposée par la secte Boko Haram. André Kordoma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La langue Kiswahili a été célébrée ce vendredi 7 juillet à travers le monde. Avec plus de 200 millions de locuteurs, le Swahili est la langue africaine la plus parlée sur le continent. Dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, c'est la langue des affaires. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma, sur l'influence du Kiswahili dans cette région.
Le Kiswahili, la langue la plus parlée dans la partie orientale de l'Afrique, facilite les affaires entre les pétroliers de Goma et leurs partenaires du Kenya, où ils vont se ravitailler. Sagesse Kubutanois est gérant d'une station de vente du carburant à Goma.
Quand nous faisons notre commande ou quand nous allons acheter du carburant au niveau du Kenya, la langue Swahili nous permet de bien collaborer, de bien discuter les prix avec nos partenaires. Quant à nous ici à Goma, la langue swahili nous permet encore de bien collaborer avec nos clients, nos consommateurs, les taximens moto, les taximens bus, même ceux qui ont des voitures privées.
Plusieurs personnes, dont Lorraine Melody, une artiste musicienne de Goma, ont tiré de cette langue plusieurs avantages liés à leurs activités quotidiennes.
Quand je suis partie en Afrique du Sud et je me suis croisée avec un classificateur, et les messieurs ne parlaient qu'anglais et swahili. Moi, je ne connaissais même pas anglais. Même les messieurs aussi ne parlaient même pas français. Du coup, il m'a demandé, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de Goma. On a commencé à parler en swahili. Jusqu'à présent, on parle avec lui. C'est une grande souvenir, en fait.
Dans tous les médias de Goma et de l'Est de la RDC en général, il y a une forte présence des journaux en kiswahili. Il faut aussi dire que le kiswahili de Goma est un peu différent de celui des pays de l'Afrique de l'Est. Il est tout de même adapté afin d'accrocher tout ce qui communique à travers cette langue, soutient Florentin Kurunzinza, un journaliste du desk Kiswahili dans une chaîne des radios de la place.
Nos éditions sont très suivies parce que la majorité de la population gomatracienne ne parle que Kiswahili. Parce que si vous faites même des statistiques, les gens qui écoutent les journaux ici à Goma sont ceux qui comprennent la langue swahili. Alors même si certains se plaignent, disant que nous présentons nos éditions dans les kiswahili un peu compliqués, nous essayons dans notre manière de traiter nos papiers d'adapter les kiswahili compliqués à celui des Goma.
Depuis 2017, l'UNESCO a déclaré le 7 juillet Journée mondiale de la langue kiswahili, qui fait partie des 10 langues les plus parlées au monde. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seluga, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.